Bon, le plan vert du gouvernement du Québec, François Legault qualifie d'ambitieux, va évidemment être détaillé encore plus. Et là, on voit qu'il y a des groupes environnementaux, des entreprises, des gens qui, à première vue, n'ont pas de terrain commun, mais il semble que là, ils s'entendent assez bien. Est-ce que ça va donner des résultats? Autrement dit, est-ce que Québec va être capable de partir de ce consensus pour aller plus loin? Luc?
Espérons-le. Moi, je pense que c'est une tentative intelligente. Je ne sais pas si c'est gouverné par le ministère de l'Environnement ou par d'autres ministres, mais ce que je pense, là, c'est qu'il y a eu, dans le passé, des dépôts de plans verts qui ont été faits, plans environnementaux, puis qui ont été comme poussés du revers de la main par d'autres ministres du Conseil des ministres. Et là, le ministère de l'Environnement a tout avantage à réussir son coup, à déposer un plan qui va avoir de l'allure. Et est-ce que c'est lui qui a fomenté ces rencontres-là ou s'en est servi? Mais en tout cas, ça va lui servir. Parce que là, il y a des entreprises, Hydro-Québec, Énergir, le Conseil de patronat du Québec, l'Association de l'industrie électrique, la Fédération des chambres de commerce, c'est quand même des gros représentants du milieu des affaires, qui se sont associés à des groupes de travail comme Environnement Jeunesse, la Fondation Suzuki, Équiterre, puis qui ont travaillé très, très fort et très longtemps dans des groupes de travail qu'on dit très, très sérieux, pour aboutir avec des propositions qui sont pas des propositions de pacotille, qui sont des vraies propositions. Alors, il y en a plusieurs, là, mais j'en cite quelques-unes qui sont intéressantes. Donc, de tarifer les plaques d'immatriculation en fonction du profil d'émission des GES. Donc, pénalité à l'achat du véhicule si le véhicule a beaucoup de produit beaucoup de GES. On sait que le Ford 150 est le véhicule le plus vendu au Québec. Fait que si tu fais ça, c'est très fort comme geste, c'est très, très fort. Alors, évidemment, ça dépend de la pénalité. Si c'est 11,75, bon, ça ira nulle part. Mais c'est quand même quelque chose qui est déposé en commun entre des groupes environnementaux et des représentants du monde des affaires. C'est pas déposé juste par un groupe environnemental dans le sous-sol d'un immeuble communautaire avec une conférence de presse où il y a deux personnes, là. Un autre point que je trouve énorme, c'est que les investissements en transport en commun devraient être du même montant que ceux du réseau routier dès 2022. Pendant des années, en Ontario, ils ont fait ça. Il y avait 75% de leurs investissements en infrastructure qui allaient sur le transport en commun, 25% sur les voitures. Nous, c'est le contraire. Tous nos investissements en infrastructure allaient sur les autoroutes, puis il y avait une petite portion pour les transports en commun. Si dès l'an prochain, on dit on met ça à 50-50, c'est un énorme geste. C'est très gros. Et je suis impressionné de voir une proposition comme celle-là. Une autre proposition que je suis impressionné de voir, c'est aucune perte nette de superficie de zone agricole entre 2020 et 2030. Attention, le ministre Legault, le premier ministre Legault, a donné systématiquement son appui au dézonage agricole dans les derniers cas qui se sont présentés à lui. Et là, on a le milieu des affaires qui dit « Nous, on ne veut plus qu'il y ait de perte de superficie de zonage agricole. » Moi, je suis assez positif et impressionné.
Lise.
Moi, je suis impressionnée par la longueur de la liste d'épiceries. On parle ici d'un rapport de 48 pages. Il y a eu 75 intervenants. Alors, c'est sûr, chacun veut avoir que sa petite idée apparaisse au résultat final. C'est un peu normal. D'ailleurs, c'est un plan, en fait. C'est un rapport qui, j'ai bien compris, ne devait pas sortir, qui a été coulé à Radio-Canada. Je suis pas certaine que le gouvernement est très ravi de voir ça se promener. C'est un préliminaire à un plan vraiment gouvernemental. Mais ce que je lui reproche, comme à tous ces rapports-là, c'est que finalement, comme on veut donner voix à tout le monde, puis que là, on a bien du monde, tu te retrouves avec... d'un côté, une mesure pour verdir toutes les cours d'école du Québec. De l'autre côté, ne plus vendre de véhicules à essence à partir de 2030. Une autre aussi que j'aime bien, que d'ici 2030, 25% de la population du Québec soit adepte de la simplicité volontaire. On a de la misère. En fait, on connaît des échecs retentissants juste à rencontrer les cibles de GES auxquelles on s'est engagé à travers les accords de Paris et ainsi de suite. Puis là, en plus, on nous ouvre ça sur ça va réduire les inégalités sociales, ça va... Ce genre de truc-là, malheureusement, parce que c'est trop, ça se retrouve, règle générale, sur une tablette. Et je voudrais ajouter ceci, quand on parle du milieu des affaires, moi je suis passée à travers les 75 organismes, j'appellerais pas ça le milieu des affaires, j'appellerais ça les copains du gouvernement, tu sais, là-dedans, il n'y a pas de papier résolu, il n'y a pas de Kruger, il n'y a pas de pétrolière, il n'y a pas de Pratt & Whitney qui fait des moteurs d'avion, sont pas là ces gens-là, ils sont représenté par l'Association des chambres de commerce. C'est un... Je dirais pas que c'est un coup de relations publiques, parce que t'as raison, Luc, il y a de très bonnes idées là-dedans, mais j'imagine, par exemple, un ministre Fitzgibbon n'a pas tellement aimé ce que le rapport propose, c'est-à-dire que le gouvernement n'entreprenne rien de nature économique qui soit contraire à tous les autres principes de ce rapport. Je pense que ça hurlerait.
Oui, c'est clair, c'est évident. Mais justement, on a vu, regarde, dans les propositions environnementales qui ont été déposées par M. Legault à ce jour, ou dans l'ensemble de son équipe, on a vu des choses risibles, tu sais, comme par exemple quand le ministre, M. Dufour de la Forêt a dit, ben on va donner plus de droits de coupe d'arbres, comme ça quand les arbres vont repousser, ben ils vont absorber plus de carbone. Donc on va aider l'industrie, puis en même temps ça aide l'environnement. Tu sais, cette espèce de truc là, ça on va faire mal à personne, puis finalement ça va bien aller. C'était risible. Tous les experts ont fini par dire, oui, il y a un peu de carbone qui est absorbé quand un arbre pousse, mais il y avait 10 autres considérations qui n'avaient pas été prises en considération. Quand avec le projet qui est essentiellement basé autour des batteries, la production de batteries par Nemaska Lithium, de dire on va avoir une filière de batteries québécoises et ces batteries-là, ben ça nous oblige à avoir des mines de lithium, des mines de graphite, de la production. Est-ce qu'on va avoir du recyclage? On ne le sait pas. Mais en bout de ligne, ça va être bon pour l'environnement. Ouais, OK, c'est correct, là, si tu fais beaucoup de détours. Mais des vraies contraintes sont tout le temps repoussées. Ils sont tout le temps à dire, ah ben non, ça non, ça non, ça non. Alors là, cette fois-ci, au moins,
mais
il y a...
Mais pourquoi ils sont repoussés, Luc, selon toi?
Ben parce que ce gouvernement-là, il est borné sur cette question. Tous les gouvernements, t'as raison, mais celui-là en particulier.
C'est peut-être parce que la population est juste pas là.
Bien entendu qu'elle est pas là, mais le gouvernement, il a pas sa job là, c'est pas de fermer la parade, c'est de l'ouvrir. Lui là, c'est le gars avec le bâton en avant là qui ouvre la parade. Tu sais, il faut qu'à un moment donné, il essaie d'élargir un peu la réflexion des gens, puis qu'il les amène ailleurs. Et si tu te mets tout le temps en arrière avec des positions qui ne diffèrent pas des positions des années 70 là, ben tu vas nulle part. Et là, au moins, puis oui, t'as raison, les gens veulent pas avancer, particulièrement dans ce gouvernement là. Et c'est pour ça que ce groupe-là s'est dit, OK, on va essayer de faire un consensus qui précède le dépôt du plan, puis peut-être que ça va un peu améliorer les choses. Mais oui, ça se peut tout à fait. Il y a 10 000 façons de rien faire quand tu veux rien faire, là. Je le connais. La première chose, là, c'est de mettre toutes les choses que tu veux pas faire à l'horizon 2030, puis de dire, ben le 29 décembre 2029, on réouvrira le dossier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu peux faire, c'est adopter avec des grands mouvements de toge toutes les mesures qui dépendent pas de ton propre palier de gouvernement. Tu sais, oui, on va protéger ici. Ah, mais c'est le fédéral. OK. Ben, je me rappelle de maire à la ville de Montréal qui faisait ça avec beaucoup, beaucoup de brio. Tu sais, Montréal, ville sanctuaire. Ben oui, ça dépend pas de toi. Ben, tu sais, puis elle a déchiré la chemise puis tout. Mais oui, mais ça dépend pas de toi. Fait que là, c'est le genre de choses. Ou alors le pick and choose. Tu adoptes juste de façon sélective celle qui fait ton affaire puis tu n'adoptes pas les autres. Alors, il y a 1000 façons de rien faire, mais au moins, il y a des gens qui ont travaillé et ces gens-là sont pas juste dans des groupes communautaires. Et rappelle-toi, même un gars comme Jerry Ulaski a dit c'est le plus grand défi de notre histoire. Ce gars-là, il est à la tête.
C'est vrai, c'est le plus grand défi. Mais pourquoi se perdre dans les méandres de trucs qui ont, comme on dit chez les jeunes, pas rapport? Comme par exemple, c'est ça de que 25% de la population va vivre selon les principes de la simplicité volontaire. Élaguer, aller à l'important, à ce qui est vital.
Ben, c'est pas fou.
Pour être pris au sérieux.
Merci. À demain, cher commissaire.
OK, à demain.
Non, mais j'ai Luc a un bon point, par exemple. Des fois, tu penses qu'ils mettent des recommandations pour permettre au gouvernement de ne pas les suivre. Non, mais...
Ça se pourrait.
En espérant qu'ils vont en retenir quand même quelques-unes. Merci, à demain. Dans 2 minutes, 9 heures. La 15, tiens.